Vous êtes sur RTL. Il est 10h. Bonjour Yann.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une, les obsèques du général iranien Soleimani ce matin à Bagdad. Donald Trump a justifié son élimination à la télévision américaine. Les États-Unis qui reprochent aux Européens leur manque de soutien alors que l'Iran continue de crier vengeance. Dans ce journal également, l'attaque au couteau d'hier à Villejuif. Pas de motif terroriste pour le moment selon les autorités. L'assaillant souffrait de problèmes psychiatriques. 31e jour de grève dans les transports et un trafic en nette amélioration à la SNCF, une bonne nouvelle en ce week-end de retour des vacances de Noël. Les sports et les 32e de finale de la Coupe de France, Bordeaux qualifié et un match entre voisins ce soir, Bourg-Perona contre Lyon. Et puis le Dakar, il s'élance demain d'Arabie Saoudite avec une priorité, la sécurité. La météo avec vous, Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Yann.
Soleil plutôt sur la moitié nord.
Oui, c'est là que nous avons les plus belles éclaircies ce matin, ce sera aussi le cas dans l'après-midi. Soleil aussi entre les Alpes et la Méditerranée, mais avec un peu de vent, Mistral, Tramontane. Et puis ailleurs, un peu de grisaille récalcitrante entre le sud-ouest, le massif central et le Grand Est, avec quelques gouttes possibles, mais uniquement ce matin. Les températures, elles sont plutôt fraîches dans l'Est, avec 4 à Langres en cours de journée, 6 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Et puis ailleurs, c'est plutôt doux, avec 8 à Lille et Reims, 9 à Paris et Rouen, 11 à Toulouse, 12 à Marseille et jusqu'à 17 pour Bastia.
Merci Anthony.
RTL, le 10h, avec Yann Bouchery.
Et à propos de météo, justement, direction l'Australie, en proie à des incendies gigantesques aggravés par les conditions catastrophiques et des températures de plus de 40 degrés. 100 000 évacuations ont eu lieu déjà dans le sud-est du pays, notamment autour de la ville de Sydney. Marion Ferrer vient de joindre Nathalie. C'est une Française qui vit, elle, dans la région d'Adélaïde. Elle était en visite à Kangaroo Island. Elle nous décrit un véritable désastre.
On était assez mal informés puisqu'on était en vacances et on a découvert en fait ces feux de forêt et qui ont progressé en fait assez rapidement sur toute l'île. Donc on a pris le ferry hier soir mais on n'était pas conscient de ce danger. Sur le bateau, on vous communique un site où il faut que vous vous teniez informé pour savoir un petit peu l'évolution. Je pense qu'il y a aussi un gros problème d'évacuation des espèces animales protégées. Enfin, il y a des koalas, il y a des kangourous, il y a des abeilles, il y a plein d'espèces endémiques sur Kangaroo Island. Et tout ça, c'est en train de disparaître, de souffrir des feux de forêt. C'est catastrophique. On n'a pas ici en Australie des gros canadairs comme en France. En France, on a quand même une stratégie au niveau des feux de forêt qui est quand même construite, que je n'ai pas retrouvée ici.
Nathalie, une Française qui vit à Adélaïde, jointe pour RTL par Marion Ferrer. Le Premier ministre australien Scott Morrison a appelé ce matin 3000 militaires réservistes en renfort. RTL, 10h03, mort à l'Amérique, c'est avec ces cris à la bouche que des milliers d'Irakiens ont accompagné ce matin le cercueil de Qassem Soleimani dans les rues de Bagdad. Le chef militaire des gardiens de la révolution iranienne a été tué hier dans la capitale irakienne par un bombardement américain ordonné par Donald Trump. Eh bien, le président a pris la parole cette nuit depuis son club de Mar-a-Lago en Floride où il est en vacances et il assume clairement sa décision.
We took action last night to stop.
Nous avons agi pour arrêter une guerre. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. Nous ne cherchons pas à renverser le régime. Néanmoins, les agressions du régime iranien dans la région, y compris par des combattants, par procuration, pour déstabiliser ses voisins, doivent cesser et doivent cesser maintenant. Ce que les États-Unis ont fait hier aurait dû être fait il y a longtemps. Beaucoup de vies auraient été sauvées. Le monde est plus sûr sans ces monstres.
À propos recueilli pour RTL par Philippe Corbet, le secrétaire d'État américain, lui aussi a pris la parole sur la chaîne Fox News. Mike Pompeo a révélé avoir parlé aux alliés des États-Unis et tous n'ont pas eu, selon lui, le même comportement.
J'ai passé ces deux derniers jours à parler avec nos partenaires un peu partout dans le monde pour leur demander leur soutien, mais aussi pour leur expliquer ce que nous faisons au Moyen-Orient et pourquoi nous le faisons. Et franchement, les Européens n'ont pas été aussi utiles qu'ils auraient pu l'être. Les Britanniques, les Allemands et les Français doivent comprendre que ce que font les Américains sauve des vies en Europe également. Nous demandons que le monde soit derrière les États-Unis pour que la République islamique d'Iran se comporte comme un pays normal.
Les critiques du secrétaire d'État Mike Pompeo lors d'un entretien cette nuit sur la chaîne américaine Fox News. Téhéran, de son côté, ne décolère pas. Les États-Unis ont commis un acte de guerre qui appelle des représailles. Déclaration ce matin de l'ambassadeur iranien aux Nations Unies. Une grande partie de la communauté internationale redoute maintenant un embrasement de la région. C'est le cas par exemple au Liban, où l'influence de Téhéran se manifeste notamment avec le Hezbollah. Vous l'avez constaté sur place à Beyrouth pour RTL, Julien Fautra.
Oui, les Libanais rencontrés dans le quartier chrétien d'Ashrafieh, comme Tony, n'ont qu'une crainte, que l'Iran et les mouvements qui lui sont associés se vengent des Américains sur le sol libanais.
Il y a les pressions de partout, c'est pas du tout évident, on n'est plus comme avant. Je pense qu'on va échapper belle cette fois-ci, sinon c'est vraiment la cata. On ne pourra plus vivre au Liban, c'est un truc vraiment décisif.
Décisif parce que le général Soleimani incarnait la puissance iranienne dans la région, le stratège, l'architecte. Les Américains ont tué hier une icône en Iran, l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient, au risque de générer des violences supplémentaires. Anthony et tous les Libanais en ont conscience.
Bien sûr que cette attaque est une erreur et les Européens n'auraient pas été d'accord avec ça. Il ne faut pas chercher l'escalade. La violence appelle toujours plus de violence. On est aujourd'hui à un moment clé.
Ce moment clé, Joyce n'y croit pas. L'étudiante reste optimiste. Il faut vivre ici, dans un pays où toutes les rivalités régionales se rencontrent.
J'ai 18 ans, du coup ça fait 18 ans que je vis dans un pays dans lequel il y a toujours des guerres, il y a toujours de la tension, il y a toujours un risque, il y a toujours... En fait, on en a marre du risque, on en a marre d'avoir peur.
Dans ce contexte, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, la milice chiite, prononcera un discours demain ici à Beyrouth lors d'un hommage au général Soleimani.
Le reportage de Julien Fautra au Liban pour RTL. Beyrouth, la capitale libanaise où Carlos Ghosn, on le sait, a trouvé refuge. Eh bien, selon le Wall Street Journal, deux Américains pourraient avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan à quitter le Japon. L'un d'entre eux serait un ancien béret vert des forces spéciales. Il aurait fait de la prison pour fraude financière à l'occasion de contrats passés avec le Pentagone.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
En France, la motivation terroriste n'est pas retenue en l'état après l'attaque au couteau d'hier à Villejuif. L'assaillant, qui souffrirait de problèmes psychiatriques, a poignardé plusieurs personnes en début d'après-midi au cœur d'un parc de la ville dans le Val-de-Marne. Un homme de 56 ans est décédé et deux autres passants ont été blessés, dont un grièvement. L'agresseur a ensuite poursuivi son périple meurtrier vers un centre commercial de L'Haÿ-les-Roses avant d'être abattu par la police. Grâce est une habitante de cette commune et elle était ce matin encore sous le coup de l'émotion.
On ne peut pas imaginer que c'est près de chez nous, il arrive ce genre de choses, quoi. Donc on n'est pas à l'aise, on est inquiet, parce que ça aurait pu être moi. Je voulais faire mes courses hier après-midi, je ne suis pas venue, je me suis dit, bon, il y a moins de monde. Et puis voilà, on se pose des questions. L'Haÿ-les-Roses, c'est une ville tranquille, donc oui, on pense à Paris, évidemment, mais l'Haÿ-les-Roses, jamais j'aurais cru. Il n'y a pas du tout de violence, il n'y a pas du tout de problème à l'Haÿ-les-Roses. C'est une ville calme.
Vous êtes quand même venu faire vos courses ce matin malgré ça?
Mais il faut bien que la vie continue, hein. C'est triste pour les victimes, mais la vie continue. Mais vraiment, j'ai quand même une pensée pour les victimes. Ça me touche beaucoup. Bah déjà parce que la personne qui est décédée, elle a presque mon âge. Évidemment, c'est pas que je me compare, mais bon, ça aurait pu être une personne comme moi, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça qui est inquiétant.
Un propos recueilli pour RTL par Thomas Dulin. Selon les premiers éléments de l'enquête, âgé de 22 ans, l'assaillant était atteint de troubles psychiatriques. Il avait été interné en établissement spécialisé. Il était connu pour des faits de droit commun, mais inconnu des services de renseignement français. En bref, 24 heures après la parution du livre Le Consentement de Vanessa Springora, dans lequel elle évoque sa relation sous emprise à l'âge de 14 ans avec Gabriel Bazneff, eh bien la justice cible l'écrivain. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans en s'attachant à identifier toutes les autres victimes éventuelles en France ou à l'étranger. En ce samedi 4 janvier, nous en sommes au 31e jour de grève dans les transports, mais une nette amélioration se vérifie pour ce week-end de retour des vacances de Noël. La SNCF prévoit 7 TGV sur 10 aujourd'hui, de quoi rassurer une grande partie des voyageurs. Bertrand Frachon a tendu son micro ce matin à la gare lyonnaise de La Part-Dieu.
Pour nous aujourd'hui, le train est confirmé, donc normalement ça devrait bien se passer.
Vous allez où?
On va à Paris, gare de Lyon. On s'est pris un week-end avec les enfants pour leur faire découvrir un peu Paris. C'était risqué, mais bon, on a eu la confirmation des trains.
Ah ben, on vient d'annuler mon TGV qui va à Lille, donc je suis obligée d'aller à Paris et changer pour aller à la gare du Nord. Donc j'ai une heure pour traverser Paris en pleine grève, donc sans métro, sans RER et les taxis qui bouchonnent. Donc je sais pas comment on va faire en fait.
Ça s'annonce un petit peu galère.
Un peu. Voilà, mais bon, on va s'en sortir. Je vais essayer de prendre un train une heure plus tôt. J'espère qu'ils vont me laisser monter pour avoir un laps de temps un peu plus important à Paris et pouvoir prendre un taxi. J'espère qu'on va y arriver.
À propos recueilli par Bertrand Frachon à la gare de la Part-Dieu à Lyon, pour le reste du trafic SNCF, la compagnie prévoit un TER sur 2, un intercité sur 3 et un transilien sur 5 aujourd'hui. Conséquence directe du mouvement, l'université Paris 1, elle a décidé de reporter ses partiels d'une semaine. Ils devaient commencer lundi, ils débuteront le 13 janvier. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera mardi matin sur RTL. Édouard Philippe, le Premier ministre, sera l'invité d'Alba Ventura. Rendez-vous à 7h45. On passe au sport avec le football et les 32e de finale de la Coupe de France. Ils sont marqués, on le sait, par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et déjà un club de l'élite qualifié puisque Bordeaux a fait respecter la hiérarchie hier en s'imposant face au Mans 2-0. À suivre ce soir, le duel entre Bourg-Péronna et Lyon, rencontre particulière puisque depuis 2016, le club de National est partenaire de l'OL. Karim Mokedem est l'entraîneur de Bourg-Péronna.
Ouais, c'est un match particulier parce que c'est le club phare de la région. C'est le club aussi où certains garçons ont été formés. Bah, moi, c'est le club de ma ville. Voilà, c'est l'OL qui va jouer la Juventus de Turin en Ligue des Champions. C'est David contre Goliath, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Maintenant, j'ai pas peur de grand chose, quoi. Donc, sans être un surhomme, attention. Hein. Mais on peut pas avoir peur d'un match de football. On va opérer personne à cœur ouvert. Personne va mourir normalement samedi à 20h55. Voilà, donc on peut pas avoir peur d'un match de football. Match de football, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est tout. Dans ce métier magnifique qu'on fait, on doit avoir toujours la banane.
Karim Mokedem au micro RTL de Willy Maisonas. Match à 20h55, les 32e de finale de la Coupe de France à vivre tout l'après-midi dans les flashs avec les correspondants et les envoyés spéciaux de RTL. Le club de Guingamp, lui, est en deuil. L'En Avant a annoncé hier soir le décès de son joueur Nathaël Julan. Le jeune attaquant s'est tué dans un accident de la route. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Il était âgé de 23 ans. Le Dakar, à présent, est une grande première cette année. Il s'élancera d'Arabie Saoudite. Un nouveau virage pour le Rallye Raid, après l'Afrique et l'Amérique du Sud. David Castera est le directeur de la course, qui part donc demain. Il était l'invité ce matin d'Agnès Bonfillon sur RTL, avec une préoccupation évidente, la sécurité.
Pour le moment, tous les voyants sont au vert et on avance tranquillement sur cette première étape et tout est posé pour l'instant. Voilà, on va voir après comment évolue la situation.
Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est balisé au niveau sécurité?
Oui, on a travaillé énormément avec les autorités. On a fait une reconnaissance de l'ensemble des parcours. On a déterminé les zones. Ils mobilisent eux-mêmes beaucoup de forces pour être auprès de nous sur la totalité du parcours, comme on faisait d'ailleurs en Amérique du Sud déjà, où il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes qui étaient mobilisés. Dakar est une grosse caravane qui est sécurisée par les pays avec qui on travaille et les pays qu'on traverse.
Et vous ne craignez pas les risques d'attentats?
On n'est jamais à l'abri nulle part dans le monde, hein, pas plus à Paris qu'ici. Donc c'est vrai qu'on se doit d'être vigilant et avec eux, on a mis en place des différentes procédures pour essayer de parer à tous ces problèmes.
David Castera, le patron du Dakar ce matin sur RTL avec Agnès Bonfillon. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Vincennes. Les pronostics de Claude Piersanti, le 7, le 4, le 8, le 5, le 3, le 6... le 9, le 13 et la dernière minute, le numéro 5 Angel d'Or, la course du Quintet à suivre sur sisplay.fr. RTL, 10h13, merci de votre fidélité. Monsieur Perrault, c'est à vous.
Merci beaucoup et si vous voulez revenir à 11h, vous savez que vous êtes le bienvenu, Yann.
Avec grand plaisir, à tout
donc
à l'heure.
Donc ça marche, à tout à l'heure.